ici à tous les quatre. C'est bien, on a une variété, on a des capillaires, on a une approche théorique sur qu'est-ce que c'est qu'un symptôme, comment on l'appréhende, et puis des tentatives de faire rentrer le trouble dans des catégories, dans une classification. Alors, moi, je vais poser juste quelques questions assez générales sur le sous-thème donc, de cette soirée, troubles et symptômes, et la façon par où chacun vous l'avez attrapé. Dimitra, je pense que ce cas que tu as évoqué permet de mettre en évidence un des aspects de cette différence entre troubles et symptômes qui, à mon avis, est importante. C'est la place du savoir dans le trouble et dans le symptôme. Dans le cas de M. K, il y a un savoir qui vient de l'autre et qui a une valeur de vérité pour lui, qui l'amène à s'identifier à son trouble. Ça lui permet aussi de ne rien vouloir savoir de son horreur de savoir. Et le silence de l'analyste le confronte à son horreur de savoir. Et à partir de ce moment-là, le savoir change de côté. Hein. Alors, en même temps, ça lui permet de prendre la parole. Ce n'est pas vraiment une question, c'est une remarque que m'inspire ton cas. Et peut-être la question, ça pourrait être, est-ce que quand il prend la parole, c'est le silence qui lui permet de prendre la parole, ou l'interprétation aussi que tu as faite à un moment donné. Donc, voilà. Et puis, peut-être un peu sous forme de boutade, je voudrais mettre en rapport les deux choses. Tu parles du traitement du trouble qui commence par une identification à son trouble, tandis que le traitement du symptôme se termine par une identification au symptôme. Donc, bon, c'était voilà, une façon de mettre ça en parallèle, mais ça m'a bien fait penser. Irène et Christophe, vous avez abordé de façon très différente, mais cette question du trouble et du symptôme en soulevant des choses qui sont un peu identiques, vous avez montré que la façon de traiter ce qui dérange en fait un trouble ou un symptôme, la façon de l'aborder. Et un trouble peut devenir symptôme à partir du moment où il y a un questionnement. Mais le questionnement, ça prend du temps. Et on en livre un peu de son symptôme. Et il n'y a que la psychanalyse qui se permet de prendre le temps. Ce n'est pas quelque chose, au contraire, dans la société actuelle. Tout va très vite et il faut que ça aille vite. Pas pour la psychanalyse. Et pour les troubles, on sont proposés des traitements de courte durée. Donc, on peut se demander... Comment la psychanalyse parvient encore à s'imposer malgré le défi du temps et le discours capitaliste, comme dit Christophe, qui a l'air de gagner le combat. Voilà. Et alors, une autre question qui découle de celle-là, c'est, mais ça vous n'êtes pas obligé d'y répondre, quel est, dans ce contexte aussi, l'avenir de la psychanalyse ? Elisabeth, bon, ce cas de Céleste est vraiment très unique, enfin, et sympathique parce qu'il met en rapport quand même trois générations et puis enfin, c'est vraiment un petit claquement de doigts, quoi, une équivoque et toute cette construction familiale arrive à se dénouer. Donc, moi, si je reprends ce que tu donnes de ce cas, c'est une interprétation entendue par... Enfin, c'est pas une interprétation, c'est une équivoque. Mais tu dis interprétation, t'en prends rien quand même. C'est une équivoque entendue par la mère de la petite fille en présence de l'analyste. Je pense que ça a son importance. Et qui produit quand même chez elle un effet d'interprétation. D'où la coupure dont tu parles, tu décris très bien avec la bande de Mobius, qui, alors, la sépare, elle, de sa mère. À ce moment-là, la petite, elle exprime quelque chose dans la langue, on se mème et il n'y a rien qui est venu quand on parle des vibrations de savoir sur la langue. Là, il n'y a personne qui vient lui dire, on ne dit pas on se mème, on ne dit pas, on lui dit pas on peut s'aimer, mais on n'est pas tout à fait les mêmes. Enfin bon, elle reste dans la langue. Donc pour elle, à ce moment-là, si la mère n'avait pas entendu l'équivoque, les choses auraient pu continuer comme ça. Et donc voilà, donc je pense que la séparation a pu se faire pour la mère de sa propre mère et a eu des effets sur l'enfant. Voilà, et donc ce que je voulais te demander, c'est à quel moment tu situes pour Céleste l'apparition donc, du symptôme qui sépare, donc comme tu l'as comme tu l'as mis dans ton titre. Donc voilà. Comment tu le situes ?
Je peux répondre tout de suite ?
Oui.
Voilà. Moi, je pense que le même claque, parce que la mère est prise dans sa propre mère.
Oui.
Alors, la question de l'amour, elle est. Quand elle arrive, la petite fille, je n'en sais rien de cette histoire-là. Je ne sais. Elle ne dort pas, mais je ne sais pas. Au téléphone, la mère m'a dit quand même qu'elle ne dormait pas. Donc, elle a juste parlé du trouble. Oh, ça ne nous en dit pas trop, mais quand même, on vient. Bon. Donc, c'est l'équivoque entre la question de l'amour qui unit tout le monde à la question du même qui vient interroger la mère par rapport à sa problème. Parce que je crois que si le même avait été, si l'amour, la question de l'amour avait été apportée par la petite fille du côté de l'amour, ça n'aurait pas fait cet effet à la mère. Donc c'est vraiment la coupure, elle vient comme ça.
Mais c'est après que la petite fille qui est en cure avec toi, elle commence à avoir des cauchemars, des symptômes,
oui.
Des voilà.
Oui.
Donc ça vient comment dans son.
Eh ben ça vient parce que elle tout de suite, elle met. Moi je reçois les enfants tout seul, donc je leur dis comment ça va, ils parlent de 3 minutes et après ils racontent des histoires. Et donc dans les histoires, elle ne fait que des histoires de bord. Il y en a deux, mais il n'y a qu'un seul bord. Il y a autour du le bord qui peut représenter le berceau ou aussi le corps de l'autre. Enfin, tout est travaillé comme ça, avec toujours que des femmes, que des femmes, que des femmes. Alors c'est une petite fille qui va chez son père tous les week-ends sur deux, qui va en vacances, qui est, bon, enfin, vraiment, il y a du père. Et d'ailleurs, elle part ravie chez son père. Voilà. Mais tout son univers est à la question du même, qui fait l'écho de cette question de l'amour, puisque on lui répète tout le temps, t'es belle, c'est vrai qu'elle est très mignonne, t'es belle, et la mère comme la grand-mère lui disent, je t'aime. C'est sur le pas de la porte, c'est affreux, c'est vraiment obscène. Et pourtant, donc ça convoque l'autre scène, disons. Hein. Et alors après, ce qui est intéressant, c'est que plus elle travaille en séance et plus ça avance, plus elle aborde, pour finir, complètement inconsciemment et presque à son insu, la question de la jouissance de l'autre.
C'est ça.
Parce que le fait d'être si belle, ça la met à une place, ça la ravage, alors ça ne se voit pas encore. Parce que dans le trouble, en fait, c'est ça qui est intéressant, le trouble ne fait pas encore ravage. Je pense que si elle n'était pas venue,
le trouble ne touche pas la jouissance.
Voilà, pas du tout, parce que ça unit, ça unit dans le sens de ça. En fait, il y avait presque une multiplication de jouissances de l'une avec l'autre. Et ça, vraiment, c'était très intéressant à entendre. Et la gamine, vraiment, dès la deuxième séance, elle vient toute seule. J'ouvre la porte, je l'appelle, hop, elle vient. Et sa mère reste dans la salle d'attente. Et voilà. Et bon, la mère, je ne dis pas la spécialité qu'elle fait, mais en fait, elle a une spécialité qu'elle a faite, qu'elle a choisie, et si elle n'avait pas fait ça, elle aurait fait psychiatrie. Et donc, elle est d'emblée, c'était pas du tout tout près d'elle, mais c'était pas loin du tout, du tout, donc elle la laisse. Quoi. Qu'est-ce que tu dis,
remarque fréquente des médecins qui choisissent une spécialité qui dit si on n'avait pas fait ça, on aurait fait psychiatrie.
C'est hypothétique. Enfin, ils le disent quand même, ça vient dans le discours. Voilà, bon.
histoire que Sam. C'est le début de l'histoire. C'est-à-dire, parce que je trouve qu'on a été un peu vite sur, sur comment ils sont venus, enfin, comment elles sont venues, pardon, comment elles sont venues vous voir. C'est-à-dire, enfin, un peu par hasard, je veux dire, je pense qu'elles devaient se plaindre de quelque chose. Alors, c'est pas forcément du fait qu'elles dormaient pas la nuit, ensemble, puisque de ça, elles ne se plaignaient pas. Mais, bon, donc c'est pour ça que je demanderais s'il n'y avait pas autre chose. Parce que c'est toujours la question, dans un cas comme ça, pour emmener un enfant, il faut quand même qu'il y ait, que ça fasse problème. Voilà.
Oui, mais peut-être que s'il n'y avait pas eu cet équivoque dans la première parole de Céleste, ça serait venu après autrement. Mais là.
Non, je parle avant. Je parle pour ce qui est de venir vous voir.
C'est l'inadvertance qui l'interroge.
Oui, oui,
voilà, c'est ça. Oui.
Il y a quand même la question.
Non. Je peux dire, elle s'appelle Constance. Donc, c'est pas du tout pareil. Bah oui, mais elle s'appelle Constance quand même. Mais par contre, la mère s'appelle bien Victor, quand même. Ça, c'est vrai. Vous ne pouvez pas le changer, ça. Le nom de la mère. C'est la clé, mais c'est important.
Non, mais c'est normal que. Moi, je trouve que j'ai trouvé ce cas très, très intéressant. Merci d'avoir dit que c'est comme ça. Très clair.
Et le fait qu'apparaissent des cauchemars et qu'elles deviennent pénibles est une très bonne chose. C'est si qu'elles se collent. On manque la castration et il a quasiment presque fini son analyse. Après les vacances, une fois qu'ils sont re-rentrés dans le cursus de la France infantile, on peut les laisser partir. Par contre, la mère, c'est notre histoire. Hein, la victoire n'est pas gagnée. Alors, un petit détail, je suis étonnée de vous entendre plusieurs d'entre vous dire. Le nouveau, je ne sais pas comment vous avez dit, la nouveauté du DSM, enfin, le DSM, comme
non,
je ne
veux pas parler pas nouveau. Ouais. Non, parce que j'ai dit que ça c'était né... J'ai parlé déjà de classification, dans fin des années 40, donc c'est pas 20 ans. Les classifications concernant les troubles mentaux, c'est fin des années 40. Le DSM, il vient dans les années 50. Donc j'ai pas dit que c'était. Enfin, moi, j'ai pas dit ça.
Le DSM athéorique, c'est beaucoup plus tard.
Oui, ça.
Le DSM
3. Voilà. Voilà. Non, enfin, les débuts du DSM, c'est.
Au moins une génération qui a.
Ben oui, donc c'est pas. Oui, bien sûr. Oui, mais ça, on voit bien les conséquences que ça a cliniquement, enfin, au niveau de la clinique, enfin, au niveau des institutions, au niveau. Enfin, je veux dire, ça s'est vraiment développé d'une manière. Enfin, là, actuellement, on est vraiment dedans.
Ça occupe toute la place.
Oui, avant, il y avait quand même. Dans les années 50, il y avait encore la psychanalyse, 60, 70. Enfin, bon, il y avait même des en institution, la plupart des soignants avaient entendu parler de la psychanalyse. Enfin, la question des diagnostics n'était pas pensée. Même les formations, on voit bien comment ça se passe maintenant. La psychanalyse, on la met vraiment en dehors des universités. Il y a vraiment. Et ça, ça date pas des années 50. Hein, c'est pas... Mais bon,
contre,
ça s'est développé.
Par contre, les gens continuent à s'adresser à nous.
Hein. Oui, mais voilà, bien sûr. C'était ça.
Même par hasard.
Oui.
Même en tant que personne.
Par rapport à ça. Oui, par rapport à la réflexion de Marty, les gens continuent à s'adresser à nous.
Donc, je reprendrai le résumé quand, que c'est Patricia. C'est vrai que le symptôme est signe de quelque chose, en ce sens, il a un sens supposé, et il pose une question, et effectivement, il y a la parole pour produire un savoir. Le trouble, c'est déjà une réponse.
Absolument.
Hein, et une désignation qui fait qu'il n'y a pas de question, il est inutile de parler, le savoir est déjà là, y compris le savoir de comment on va le traiter, médicaments, TCC, etc. Donc, pour aller sur les brisées de Christophe, après tout, discours capitaliste et discours de la science devraient être satisfaits. Y compris parce que ça permet de rembarrer le discours analytique. Or, ce que l'on voit à l'heure actuelle, c'est une remise en cause du DSM. C'est-à-dire que le DSM est une remise en cause non pas par les tenants de la psychodynamique ou de la psychanalyse, une remise en cause par les scientifiques eux-mêmes, au sens où, avec le trouble, persisterait encore peut-être quelque chose qui serait trop subjectivable et qui pourrait encore amener à aller voir ces charlatans psychanalystes. Quelque chose comme ça. Et on essaye d'aller beaucoup plus loin du côté de la recherche du dysfonctionnement au-delà du trouble et du dysfonctionnement avec marqueurs biologiques. C'est ça l'avenir qui se concrétise
à l'heure actuelle.
Le DSM commence à être asbin. Il faut faire très attention à ça.
Non, mais certainement. Oui, c'est pour ça qu'on sent bien que.
Et est-ce que c'est à ça que les nouvelles versions du DSM tendent à pallier,
tenter à pallier, mais avec un effet baudruche qui est impossible. Parce que le DSM devient quelque chose qui ne peut plus être manié quand vous avez 560 troubles qui se juxtaposent. La recherche, elle est fichue. Il n'y a plus de recherche théorique possible à partir du DSM.
Ben oui, c'est ce que je...
Ceci dit, en m'écoutant dire le texte, je me suis rendu compte que j'étais quand même plutôt pessimiste. Voilà. Et en fait, je ne le suis peut-être pas tant que ça. Alors, peut-être pas dans les institutions, hein. C'est autre chose. Je pense que les institutions, c'est quand même un raz-de-marée, un tsunami. Mais quand même, dans la particularité de nos cabinets, quand on reçoit quelqu'un, bien sûr qu'il y a tout ça qui contamine... la relation, mais quand même, il me semble que dès lors qu'on commence à écouter quelqu'un un peu sérieusement, et qu'on prend un peu au sérieux ce qu'il dit, très rapidement, il y a quelque chose de ce brouhaha, du discours capitaliste quand même qui s'estompe un peu, il y a quelque chose quand même qui se met un peu à distance, et on arrive quand même rapidement... Enfin, rapidement, pas toujours, c'est peut-être c'est un travail, mais il me semble quand même qu'il y a des sujets divisés qui apparaissent à un moment, ne serait-ce que par un lapsus, un même ou autre chose. Et là, quand on arrive à obtenir ça, ça a un effet. Ça a un effet, et ensuite, le patient ne ressort pas comme il est rentré et ne reviendra pas comme il était arrivé la première fois. Donc il y a quand même quelque chose qui est possible dans les cabinets, je pense. Après, dans les institutions, c'est beaucoup plus difficile.
Sol, mais peut-être que Dimitra, oui, et puis après, ce sera Sol.
Oui, je pense qu'il y a eu deux temps. Le silence était le premier, et d'anglais, en fait, ce qui était pour moi aussi une surprise, parce que c'était les premières minutes de cette première séance où, après deux questions très banales, en fait, je me suis dit, bon, quand même, je ne peux pas laisser d'anglais dans le silence. Et finalement, c'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas comment j'ai été amenée à le faire, je l'ai fait. Et c'est ce qui l'a amenée à parler petit à petit pendant un ou deux mois. Développer un récit, commencer à parler des événements. L'interprétation, et cette séance que je citais, ce qui a permis, à mon avis, c'est vraiment une coupure et l'ouverture d'un nouvel espace où là, lui, il parlait en fait de la répétition, même il disait c'est la même chose, ça se répète, mais ce n'était pas la répétition peut-être telle qu'on entend en analyse, parce qu'il parlait d'une répétition, la parole ou le cauchemar qui se répète à partir de cet événement qu'il a vécu dans son pays qui a fait qu'il a fui en tant que réfugié. Et donc, il parlait, il y avait cette temporalité, ce deuxième temps. C'est-à-dire à partir de cet événement, et aujourd'hui, ça se répète. Et l'interprétation, je pense, qui a permis, c'était une coupure, et introduire un temps préalable à cette agression dans son pays, auquel il n'avait pas pensé, lui, il n'avait pas pensé à faire les liens, en fait. Et je pense que cette question qu'il m'a posée, comment vous savez ça ? C'est ça qui a permis, en fait, de remettre vraiment, de mettre plutôt la répétition dans un circuit autre.
Et c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui arrive donc par le biais d'institutions, donc il ne fait pas la démarche d'aller voir un analyste, mais qui vraiment saisit quelque chose de différent de tout ce qu'il a eu jusque-là, et qui dit, ben, quand je suis venue vous voir l'autre fois, ben, c'est, ça allait mieux quand même. Il y a quelque chose qu'il a...
Moi, je suis très embarqué dans cette cure. Et j'ai commencé, en fait, c'était vraiment un premier patient dans une nouvelle institution en décembre, donc c'était justement au moment où on allait présenter, et j'ai changé mon sujet parce que cette cure m'intéresse beaucoup. Effectivement, quelqu'un qui ne parle pas, qui n'a pas du tout la culture de ça, qui est venu très chargé avec les traumatismes, où il attend depuis un an de venir consulter. Et finalement, il saisit très vite les choses, très très rapidement. Je dirais que c'est presque un mouvement, je dirais. Comment il peut laisser les traumatismes, les gros traumatismes, les gros événements qu'il a vécu, pour parler aussi d'autre chose.
Et de l'enfance aussi.
Parce qu'il rattache ça à l'enfance, hein, aussi.
Excuse-moi, mais on n'avait pas fini le tour, non ? Vous voulez répondre à Jean-Jacques ?
Oui, parce que, évidemment, Jean-Jacques, ta question, c'est aussi quelque chose qui ne s'est pas présenté comme trouble du lien du père à la mère, mais qui était là dans une souffrance, parce que le fait que cet homme ait quitté cette femme si vite, et que c'est une souffrance qui était là et qui est venue très très vite, et qui était donc c'est peut-être assez, c'est ça tu sais qu'il y avait
la séparation avait déjà eu lieu quand elle avait eu Thoreau.
Ah oui, c'était passé, je crois qu'elle avait, elle avait 10 mois quand son père a annoncé qu'il était en couple, et deux mois après, enfin quasiment, la petite sœur est née. Donc il y avait vraiment...
La mère était en couple aussi ?
Non, la mère était toute seule avec sa fille. Non, parce que la grand-mère, elle vit chez elle avec son mari. C'est vraiment un mythe familial, quoi. C'est vrai qu'elle est très disponible, mais elles habitent pas du tout ensemble. Et d'ailleurs, c'est des gens qui sont investis dans des tas de choses. C'est pas, ça se présente pas comme une névrose familiale terrible où tout le monde est collé. Pas du tout. Dans le discours, c'est des gens qui investissent beaucoup de choses, qui sont... Et puis, c'est la répétition, vraiment, d'une fille. Donc, Victoire a sauvé sa mère. Et ça se referme sur une fille... vient unir une mère avec sa mère, puisque le fait que le père est éjecté comme ça, de lui, enfin, c'est lui qui s'éjecte, c'est lui qui part. Et...
Il a manqué de constance.
Comment c'est
constance ? Il a manqué de constance.
Oui, alors, moi je voulais vous remercier tous les quatre, et puis en particulier Dimitra Colonia pour cette présentation de ce début d'une cure en institution qui vient contredire d'une certaine façon les dernières remarques de Christophe Charles. Il y a bien en institution la possibilité d'un démarrage de cure. Il suffit qu'il y ait un analyste pour le faire, pour l'opérer, hein, pour répondre avec ce silence. On me dit que je suis malade me soucade, qui est très beau. Hein. Ce n'est pas je suis malade, c'est tout autre chose. On me dit que je suis malade. Là, c'est loin. Très, très, très frappant. Alors, je voulais vous poser une question. Je ne suis pas certaine d'avoir bien suivi la fin de votre exposé, le détail, qui vous amène donc à terminer avec cette question. Faudrait-il que l'analyste ait un désir anonyme ? Alors, spontanément, je répondis pour dire « mais non, pas un désir anonyme, au contraire, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous voudriez bien nous dire qu'est-ce qui vous a amené à vous poser cette question ?» Parce que, encore une fois, je crois que j'ai raté peut-être des détails qui vous ont amené à conclure avec cette question.
En fait, cette question, pour être franche, toute cette question du nom qui vient, c'est-à-dire comparaison DSM, trouble et symptômes du côté de l'analyse, c'était mon idée de départ que je voulais développer et étudier, mais je ne l'ai pas fait. C'est-à-dire que le nom, le DSM, serait un autre qui attribue un nom commun en fait hein, au CG, qui n'est pas sa question, et au contraire, la place que réserve l'analyste en symptômes, en CG déjà, parce que c'est le CG hein, en jeu, ce serait tout ce parcours jusqu'à la fin de l'analyse avec les symptômes qui est sa propre... identité d'une certaine manière, une identification aux symptômes qui serait son nom propre, comme on dit, hein, ça, c'est là au cœur les noyaux de ce qu'il est, en fait, dans son rapport à la jouissance. Et le désir anonyme, c'est jeu de mots que j'ai fait en mettant un tiret après les A pour mettre l'objet A, en fait. Ce serait un désir qui anonyme dans le sens où il ne fixe pas l'analyste avec un nom. Les sujets, l'analysant, mais que l'analysant lui-même, il se donne, il trouve ses noms, en fait. Ce serait un jeu de mots dans ce sens-là.
Ça m'a amené à penser, à, puisque l'expression vient dans ses notes à Jenny Aubry,
oui.
Avec l'idée de la nécessité d'un intérêt particularisé.
Oui.
Et je me disais, en pensant au désir de l'analyste, à la fonction du désir, que quand même très marqué d'un intérêt bien particularisé. Donc voilà pourquoi le... Merci.
Oui, je crois que on est d'accord tous sur le fait qu'il y a la nécessité d'un passage du trouble au symptôme. Maintenant, est-ce que c'est vrai que on peut dire qu'on est identifié à son trouble? Je ne crois pas qu'on puisse dire une chose comme ça. D'ailleurs, il y a des gens qui consultent pour des troubles. Ils se posent des questions pour leurs troubles. Par exemple, les troubles sexuels. Il y a des gens qui consultent parce qu'ils ont des troubles sexuels. Et donc, on ne peut pas dire qu'au départ, on est identifié à son trouble. On ne peut pas dire que les troubles ne dérangent pas. Il y a des troubles qui dérangent. C'est plus rare pour le sommeil, en tout cas pour chez les adultes. Ça m'est jamais arrivé, peut-être que vous avez des cas où quelqu'un consulte parce qu'il n'arrive pas à dormir. Peut-être que ça arrive.
C'est chez les enfants, c'est fréquent.
Oui, chez les enfants. Chez les adultes, ça arrive dans la cure qu'ils parlent du problème des sommeils. Mais demander pour ça, mais par contre, concernant la sexualité, si. Il y a beaucoup de demandes concernant des troubles, et donc le sujet, ça dérange le sujet. Comment ?
Le trouble et des troubles, c'est pas pareil, justement. Les troubles, c'est des difficultés, c'est des symptômes. Le trouble, c'est une nomination.
Non.
Un trouble,
ça trouble. On se pose des questions. Maintenant, dès là, passer aux symptômes en analyse, c'est sûr que c'est autre chose. Mais on ne peut pas dire que les troubles ne dérangent pas.
Moi, je voulais juste, parce que j'entends justement par rapport à cette question de troubles et de symptômes, alors peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas bien comprises, mais.
justement, je m'interroge sur le fait que justement, la vignette clinique que j'ai donnée, c'est parce qu'il s'agit d'un trouble de la perception. Et c'est vrai que ce soit la psychiatrie classique, même la psychanalyse s'est intéressée aux troubles de la perception, notamment pour les psychoses aux hallucinations. Et donc, la question du symptôme, s'identifier à son symptôme, parce que donc, ça suppose tout un travail analytique qui fait qu'il y a quelque chose. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire quand même qu'un trouble peut faire symptôme ? Parce que, enfin, moi, c'est ce que j'ai essayé de démontrer. Alors, peut-être que monsieur va m'en planter, je ne sais pas. Mais j'ai l'idée que, par exemple, ce vertige, ça fait symptôme pour ce sujet-là.
Oui, mais
Pour ce sujet-là, le fait qu'il n'en ait pas parlé, qu'il commence à en parler, qu'il commence à déplier les choses, je trouvais ça, justement, je me suis interrogée pourquoi il a dit ça à ce moment-là. Enfin bon, je ne vous ai pas parlé de tout ça, mais c'est, en tout cas, je ne dissocie pas là ce trouble-là d'un symptôme. Alors ça ne veut pas dire effectivement la question de s'identifier à son symptôme en fin d'analyse. Enfin, de toute façon, avec lui, ça n'est pas là. Mais je pense que ce n'est pas incompatible. Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns les autres.
On est d'accord.
Non, parce qu'on dissocie là, on dissocie vraiment les deux.
Oui, peut-être une petite remarque à Dimitra par rapport au non-symptôme qu'on utilise pour qualifier, désigner cette fiction de jouissance. Le non-symptôme, il est donné par l'autre. C'est pas comment parler de produit d'analyse au non-symptôme. Tous les exemples qui sont donnés, ça vient toujours, c'est l'autre qui désigne le sujet par son non-symptôme.
Mais la jouissance, je crois qu'elle est sujet, et ça fait la différence. Et là, l'autre, forcément, c'est l'autre, et les signifiants de l'autre, forcément, je veux dire, de fait.
Mais là. L'idée que c'est quelque chose qu'il faudrait trouver dans l'analyse, ça prête à discussion.
Le quoi ?
L'idée que ça serait trouvé dans l'analyse, ça prête à discussion.
Je ne pense pas que je dis qu'il faut le trouver dans l'analyse. Je pense que c'est justement ce que je voulais dire. Peut-être tu fais allusion, si je ne me trompe pas, à la question du nom à la fin.
Oui, c'est ça.
C'est rapport à la jouissance qui est la sienne. Je pense que là, on a à saisir quelque chose à la fin de l'analyse par rapport à ça, ce qui donnerait vraiment, pour le dire autrement, la signature du sujet. C'est cette jouissance, en fait. C'est ça que je voulais dire, peut-être maladroitement. Mais ce n'est pas l'analyste qui va le faire. Forcément, les signifiants sont de l'autre. Et je pense que même cette idée de la séparation, elle vient aussi par rapport à cette jouissance qui est du côté du sujet. D'où aussi mon argument, de certaine manière, toc-toc, c'est le sujet ou l'autre, c'est cette différence. Le DSM, ce serait l'autre, mais l'autre DSM, pas le signifiant de l'autre du sujet sur lequel la jouissance est allée s'accrocher. Je ne sais pas si ça répond à ça.
Ça c'était pas ce que je voulais. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié. Non, mais c'était juste une petite parenthèse pour rebondir sur ce que tu disais. Moi, ce que j'ai été très intéressé, c'est l'effort que vous avez tous essayé de faire d'une façon ou d'une autre pour articuler la notion de trouble au symptôme.
Oui, c'est ça.
Non, mais avec des angles d'approche qui sont différents. Parce que Irène, elle a une thèse, elle dit le trouble vient du symptôme.
Non, j'avais dit ça.
J'ai entendu, j'ai noté.
Ah ben si, le trouble vient du symptôme, Gehenhaus.
Ah oui, dans ce qu'elle dit.
Ça veut dire qu'il sort du symptôme.
Mais c'est pas ça. Oui, d'accord. Mais en fait, moi, ce que je dis.
Je vais pas terminer. Pas le même trouble. Bon.
Le trouble, quoi.
Après, je me suis posé la question, le trouble, la trouble. Qu'est-ce que trouble, le trouble donc, on a le trouble qui trouble ce qu'on pourrait appeler des fonctions. On a énuméré dormir, manger, les troubles alimentaires, les fonctions sexuelles, les troubles sexuels, la pensée, parce que détox, les troubles, c'est un trouble de la pensée. Et après, on a les troubles du langage aussi. Alors, c'est quand même l'articulation. Il y a quand même dans vos, on entend quand même dans vos exposés cette articulation qui existe quand même entre troubles et symptômes. C'est pas, on n'entend pas quelque chose de complètement indépendant. Alors que le symptôme, lui, effectivement, lui, il vient perturber autre chose.
Oui,
attends, ouais, vas-y.
Vas-y,
bah, non, mais répondez.
Alors, très vite, très vite. Je pose la question parce que je si c'est pas de la curiosité, est-ce que
pardon, je fais très vite parce que je ne fais que poser la question. Est-ce que Freud lui-même a défini ces choses d'une façon précise? Est-ce que ces choses sont écoles? Est-ce que Lacan lui-même a travaillé là-dessus? Et quand il parle d'angoisse dans ses séminaires, sur l'angoisse, est-ce que c'est pas une synthèse qui se fait un peu? Pas pour mettre tout le monde d'accord, c'est justement là que je pose la question.
Voilà.
Et puis il y a aussi
Jean-Jacques.
Oui, rapidement, merci justement pour les exposés. Le trouble, les maris étaient troublés. Alors c'est quoi que je suis troublé? C'est un symptôme ou pas?
C'est un signe.
Alors justement, j'enchaîne en m'adressant à Irène. Je te dirai. Le trouble vient du symptôme, disait Irène en citant Freud.
Alors, est-ce que je peux dire simplement que c'est la traduction littérale, mais en réalité, ça a été traduit par le symptôme trouble tout.
Oui, mais la traduction littérale nous intéresse.
Ah. Oui, parce mais
que
est-ce
ça
que...
donne
elle est beaucoup plus juste.
Ça donne une idée sur le trouble,
oui,
qui ne serait pas à opposer au symptôme,
oui,
voilà, mais bien, qui serait peut-être un signe du symptôme.
Oui, et ben moi je suis...
C'est pour ça
voilà. Alors, moi je suis tout à fait d'accord que le...
J'ai dit que j'enchaînais, c'était une façon de...
Le trouble est un signe du symptôme. Oui, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que, en fait, moi, je dirais que dans l'idée, c'est le symptôme est signe d'une jouissance. Voilà. Mais le trouble qui intervient, c'est, au fond, par exemple, enfin, dans la vidéo que j'ai donnée, c'est quand même ce qui fait symptôme. Donc ça fait symptôme d'une jouissance. C'est pour ça que moi, je trouve intéressant comment la psychiatrie classique et la psychanalyse, en tout cas sur ce plan-là, avaient vraiment articulé troubles et symptômes. C'est-à-dire que la question d'articuler théorie, de ne pas vider le symptôme de ces... De ce qui est sa théorie, ça permettait justement de donner une clinique quand même très riche.
À la condition qu'il y ait un sujet. À la condition qu'on considère
voilà,
qu'on dise un sujet.
Voilà.
Ce qui se passe maintenant, c'est que justement, le sujet n'étant plus là, par définition, on le raye de la carte, on peut parler jusqu'à plus soif de cette question de troubles et symptômes. Il n'y a plus de symptômes. Donc après, cette question devient caduque quand il n'y a plus de sujet. On peut se permettre de se poser les questions des troubles
et du symptôme, ou des troubles et des symptômes, et de voir comment ça va s'articuler si on s'adresse à quelqu'un en tant que sujet, mais s'il n'y a plus de sujet, il n'y a plus de symptômes, donc il n'y a que des troubles, et voir un trouble pour justement l'accès à la
réflexion. Mars, tu disais, troublé, être troublé, c'est ça. On n'a pas parlé ce soir du fait que trouble, c'est une traduction de mots qui, dans le DSM et tous les manuels, c'est disorder.
Oui, disorder, dérangement.
Donc, c'est pas exactement la même chose. Hein. C'est trouble, être troublé, disorder, disorganized, c'est pas le même champ céramique.
Oui. Mais on voudrait dire quelque chose aussi par rapport à la construction, comment on dit ces choses, parce que bien sûr que tout commence par un trouble, tout le monde est troublé, mais c'est la façon d'aborder. Si on rentre dans une classification des troubles et on dit vous êtes troublé, alors c'est que vous êtes donc ça devient une classification et une désignation, c'est pas la même chose que d'écouter une personne qui arrive avec son trouble et va en faire quelque chose d'autre. Moi, je crois que la question du trouble, c'est plus, comme je disais tout à l'heure, il me semblait, la façon de traiter ce trouble, de traiter ce qui dérange quand quelqu'un arrive avec quelque chose qui dérange.
Il y a beaucoup de questions.
Alors, on va prendre 3-4 questions et après on va s'arrêter parce que.
Oui. Je voudrais revenir sur les deux vignettes qui lient.
Oui.
Qui me semble exemplaire sur un point en particulier, c'est d'un côté l'articulation entre place du symptôme et désir de l'analyste, et c'est éclairé par quelque chose qui est justement, à mon avis, pas intuitif tout à fait. D'ailleurs, Dimitra, tu dis que tu sais pas trop pourquoi tu as fait autant de silence dès le départ, et puis au bout de 2 questions seulement, et puis de l'autre côté, on a un système où tout s'arrange, donc on ne voit pas bien ce qui justifie l'intervention s'il n'y a pas de demande ni de plainte. Et je trouve que c'est à ce titre-là que c'est exemplaire de ce que vous avez amené. Donc ma question, c'est quand vous êtes en face d'un système où tout s'arrange et que vous venez introduire des choses qui mettent un peu le bazar dans la famille, des cauchemars, ou qui mettent quelqu'un qui n'a pas envie de parler, de pourquoi il n'a pas envie de parler, et finalement de quand même le mettre face à ça, qu'est-ce qui vous guide pour qu'est-ce qui vous guide pour transgresser, pour... disons, transgresser ses formes, mais pour intervenir dans un système où apparemment les choses s'arrangent plutôt bien.
Non, mon patient, ça s'arrange pas très bien. Dans la précarité en tant qu'électrice.
Non, pour mon patient, ça s'arrange pas très bien.
Franchement, très.
Je ne sais pas où tu as vu ce qui s'arrange.
Il voulait ne pas parler, et donc là, le pousser à parler, c'est
un peu... Non, je ne l'ai pas poussé, justement. Il a parlé, mais c'est différent. Je ne l'ai pas poussé, et je crois que c'est toute la différence, en fait. T'as dit quelque chose, mais je les appelle, je ne sais pas... Ça m'échappe quelque chose où je voulais justement par rapport à la position de l'analyste que j'oublie, mais justement je.
Ça, c'est la valorisation de la place ou de la fonction du symptôme.
Jean-Pierre.
Oui, c'est quand même fondamental, c'est le contraire des cellules de crise, de la nécessité d'élaborer un traumatisme, il faut que vous parliez, allez-y.
Ah oui, voilà.
C'est vraiment la position contraire, c'est fondamental.
Et la question, c'était pas pourquoi il ne parle pas. ça non plus, ce n'était pas ma position, ce n'était pas une question, ce n'était pas du tout dans, dans ce sens-là que j'ai orienté les choses. Ça ne m'a pas intéressé pourquoi il ne parlait pas. Et je pense que ce sont deux positions très importantes, peut-être.
Ce n'est pas de la curiosité.
J'y allais comme ça.
Non, ce n'est pas pourquoi. D'ailleurs, il ne savait pas. C'est-à-dire qu'il serait incapable de dire pourquoi il ne parlait pas, par exemple. C'est avec la répétition qu'il peut le dire, et je pense que la question du savoir, c'est avec la répétition qu'on peut aller vers le savoir, justement. Si on dit pourquoi, bon, je suis sûre que ce serait resté comme ça, il serait dans le silence.
Peut-être pour rebondir sur ce que disait Marc, pour reprendre un petit peu, le trouble est toujours trouble de. Trouble de quelque chose. Alors que quand on est troublé, on est troublé par. Et être troublé par, ce n'est pas avoir un trouble de quelque chose.
Voilà, tu veux.
Oui, parce que à la dire, le symptôme, il se suffit à lui-même. On n'est pas symptôme de. On a un symptôme. Tandis qu'on ne peut pas avoir un trouble. On ne dit pas j'arrive, j'ai un trouble. Il faut forcément un complément au trouble.
Oui.
Donc ça fait quand même une différence essentielle.
Mais pour rebondir, si dire, pour rebondir sur ce que disait Louis.
Tu connais quelqu'un qui arrive qui dit j'ai un trouble?
Oui, de plus en plus.
J'ai un trouble de, j'ai un trouble du sommeil, j'ai un trouble de l'alimentation, j'ai un trouble de la pensée, j'ai un trouble de quelque chose.
Le patient que j'ai vu, il m'a dit j'ai un trouble de, il m'a dit j'ai un vertige.
Bah oui,
c'est pas un trouble. Oui, mais c'est pas un trouble de, c'est un vertige. J'ai un vertige.
Exactement.
De plus en plus, les patients se désignent par le trouble. J'ai un toc.
C'est toi qui dis qu'il a un trouble, c'est pas lui.
Mais
attends.
Juste un commentaire parce qu'il est tard et tout le monde. Non, mais c'est justement une question en rapport avec le temps ou la temporalité. Je voulais juste remercier Dimitra parce que j'ai trouvé tout à fait lumineux. Non, mais c'est vrai, hein, peut-être c'est évident pour tout le monde, mais j'ai trouvé très, très éclairant que tu indiques. Cette espèce d'absence de temporalité dans le trouble au sens du DSM, comparé à ce qu'on peut entendre du côté du symptôme qui se dit pour et par un sujet. Voilà, donc c'est tout.
Merci. On arrive maintenant à la fin de la soirée. Le avril. Oui. Attendez, ne partez pas.
Ceux et celles qui vont à Aix-en-Provence, est-ce que vous voulez bien prendre 2, 3, 4, 5 numéros des cahiers du collège clinique? Vous marquez votre nom, ils sont dans le bureau, vous mettez votre nom et le nombre de cahiers que vous prenez. Et il est évident que vous allez tous amener des cahiers du collège.
Vous allez tous venir à Aix-en-Provence.
Évidemment, vous êtes tous.
Venez tous à Aix.